7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisso et Queenie Tassel pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
C'est un volcan en Antarctique qui fait 4000 mètres de haut et dans lequel il y a un lac de lave permanent. Et l'ascension est interdite d'une part parce que c'est très dangereux, d'autre part parce que en 1978, c'est à peu près au moment où je suis né, il y a un avion qui s'est écrasé sur le volcan. C'est devenu un espèce de cimetière à ciel ouvert. Et j'ai beaucoup rêvé de ça quand j'étais petit parce que j'écoutais les cassettes d'Arun Taziev, c'est le vulcanologue. Lui racontait son ascension en haut du mont Erebus et je rêvais que j'y montais vite, en volant. Et j'ai pas lâché l'affaire encore.
Nova.
Je désespère pas d'un jour pouvoir accompagner une expédition là-bas.
Pour que tu rêves encore.
Waouh, ça c'est un vrai beau rêve, monter sur un volcan super dangereux, le mont Erebus, qui existe vraiment. Hein. Vous êtes pas chaud, Queenie, on y va un jour sur le mont Erebus,
sur le volcan là?
Ouais, bouillant. C'est-à-dire, on slalome entre les geysers, ouais. On tombe dans la lave, on arrive au sommet et là,
bof.
On voit le...
Bof.
Quoi, ouais. Bof?
Bah, j'ai fait la montagne une fois, j'ai marché dans une bouse, mais ça m'a saoulé.
Ça m'a saoulé. Vos rêves sont petits, Queenie, étriqués.
Bah,
bon, on dit bonjour aux gens, ça vous va?
Oui. Bah, allons-y, bonjour.
Allez. Bonjour à toutes, à tous, à tous. Bienvenue sur Nova. On est mardi, il y a école aujourd'hui. Alors les enfants, prenez vos stylos et ouvrez vos emplois du temps au mardi 4 février. Voilà, c'est bon.
C'est
alors,
bon.
De 8h à 18h, vous écrivez EPS.
Ah oh bah non, c'est trop long.
Dans toutes les cases. Ou récré, pour ceux qui ont école primaire. Voilà, merci. On passe ce mardi en plein air. Comme ça, on fera une tech dans le froid, c'est super. Et surtout, on évitera l'intérieur de l'école, du collège ou du lycée, qui est certes chauffé, mais qui n'est pas respirable. J'ai lu le journal Libération ce matin. La une est une carte de France couverte de points rouges. Alors, ça n'est pas la varicelle, c'est l'amiante. Libé s'est procuré une liste de 20 000 établissements scolaires français, donc le tiers en gros, qui dit que la majorité des collèges, écoles et lycées bâtis avant 1997 contiennent de l'amiante. Dans les faux plafonds, la peinture des murs, les poutres, les dalles au sol, il y en a partout. Alors, tant que l'amiante reste calfeutrée, les risques sont minimes. Mais si un jour... un plafond commence à bailler ou un prof décide d'accrocher un nouveau tableau, tac, 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 trou dans le mur, là, il y a danger.
Oula.
Un danger flou pour un dossier explosif. Personne aujourd'hui en France n'est foutu de faire un diagnostic complet de ce problème de santé publique, écrit Libé ce matin. Au ministère de l'Éducation nationale, on se renvoie la balle qui revient puis repart comme un jokari à l'infini. Qui va finir par se la prendre dans la gueule? Mystère. Le seul truc qu'on sait, c'est que amiante dans poumon, ça met 30 ans à faire son effet. Alors, les enfants, ne grandissez pas, surtout. Restez des enfants, les enfants, et traînez dehors. En plus, mardi, il y avait techno, et j'avais pas révisé mon porte-clés électronique.
Oui.
Donc c'est nickel que ça saute. Fait du bien, non, d'être dehors. Voilà, alors pour les adultes qui nous écoutent et qui se sont sentis un petit peu exclus de cette info amiante, j'ai un bonjour respirable à passer ce matin. Bonjour et bravo à Daniel Kimmelfeld, candidat à la mairie de Lyon, qui a remplacé ses tracts de campagne par des QR codes floqués sur les caouets de ses militants, sur les marchés, vous flashez et hop, il y a le programme du candidat qui s'affiche sur votre smartphone. Alors oui, vous allez me dire, ça fait gadget, ça fait politique qui veut qu'on parle de lui et ça marche. La preuve, je viens de dire Daniel Kimmelfeld, vous avez envie de voter pour lui. N'empêche qu'enfin, il y en a un candidat qui nous évite le prospectus en papier glacé qui hurle dans nos boîtes aux lettres en lettres vert capital. La planète va mourir! Stop le gâchis! Lisez mes 10 propositions pour moins tuer les arbres! PS, votez pour moi! Voilà, fin du tract qui finit donc à la poubelle jaune avec ses copains tract.
Ouais,
c'est une logique.
Nova.
Votre disque du mardi, Queenie, c'est un morceau qu'on écoute donc au tribunal.
Tout à fait.
Pendant le procès en appel du couple Balkany, qui est soupçonné, on le rappelle, de blanchiment de fraude fiscale. Alors, c'est cet après-midi que reprend le procès. Il n'y aura que Isabelle Balkany sur les bancs de la salle, parce que Patrick, son époux, est toujours maire de Levallois-Perret, on le rappelle, est actuellement en prison. Il a des problèmes de santé. Alors, Queenie, qu'est-ce qu'on met comme bande-son pour ce procès?
Alors, on met un morceau sur des travailleurs à la chaîne. Alors, on est bien loin de Levallois-Perret, lieu de villégiature des Balkany. On est dans la poussière avec ces prisonniers qui n'ont probablement rien fait de plus que d'être noirs. Alors c'est une archive
c'est
là.
C'est pas le Valois-Perret.
Non, non, ça date de 1929, cette archive. C'est vraiment des prisonniers qu'on entend. On entend leurs outils qui raclent le sol et leur chant. Les prisonniers à la chaîne, ça existe encore dans les années 50 aux États-Unis, au moment où Sam Cooke est en tournée. Sam Cooke, c'est un chanteur soul noir extrêmement populaire aux États-Unis à l'époque. Et un jour, donc en tournée, il croise un groupe de prisonniers. Il s'arrête et lui et son frère Charles discutent avec eux. Ils sont touchés par ces prisonniers et la légende veut que les deux frères leur ont offert plusieurs cartouches de clope. Il faut savoir qu'on est à la fin des années 50, dans les balbutiements du mouvement des droits des Afro-Américains, et que Sam Cooke, il est méga politisé et il est pote avec Muhammad Ali et Malcolm X. Il a donc écrit un morceau inspiré par ces prisonniers. Par ces prisonniers et par leur sentence pleine de douleur, et là il la chante sa douleur. Ouh ! Ah ! C'est Chain Gang de Sam Cooke sur Nova.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men.
Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
Vous nous appelez de Poitiers?
Quasiment.
Ah, quasiment.
La ville de quasiment. Juste à côté.
Oui, ça touche.
Arnaud, on va aller vous faire gagner des places donc, pour aller voir Philippe Catherine au TAP. C'est le week-end prochain.
C'est ce week-end.
Et pour les gagner, il va falloir faire notre jeu du reverse. Parce que tous les mardis, on passe, enfin Manu, notre réal, massacre des disques, hein, je crois qu'on peut le dire. Il les passe à l'envers, il met la touche reverse. C'est à vous de retrouver l'artiste qu'on va vous faire écouter et qui fait un peu flipper. Alors, indice, ça n'a rien à voir avec Philippe Catherine. Vous êtes prêts?
Ok. Ok.
Bon, c'est donc indice on suivant. Sait que c'est pas Philippe Catherine. Non, vous l'avez pas, ça vous dit rien cette voix?
Non.
C'est pas grave, j'ai un deuxième extrait pour vous. C'est le même artiste et c'est un instru. Une instru très très connue d'un de ses morceaux. Vous êtes prêts?
On va essayer.
C'est parti. C'est le bordel ce jeu.
Ouais.
Arnaud, ça vous dit rien ce son si chelou?
Non. Au téléphone, non.
Il y a peut-être le fait que oui, il y a des.
Ouais.
Des coups sur la ligne. Non, alors attention, on se concentre. Dernier indice, il est plus facile, il y a et la voix et l'instru. Il va falloir bien écouter, ok? Mettez plus fort votre téléphone, c'est le troisième et dernier indice.
Single Lady.
Qu'est-ce qu'il y a?
Single Lady.
Single Lady, mais c'est de qui?
Comment ça s'appelle?
Prenez votre temps.
Ouais, ça va.
C'est important, c'est une personne qu'il faut respecter. C'est une Beyonce. Queen. Beyonce. Ah, on vérifie? Oui, c'était ça.
Je suis trop content d'avoir gagné sur Beyonce car c'est tout à fait moi.
C'est vrai,
vous êtes une queen,
vous êtes une single lady, Arnaud. Bon, il va falloir trouver quelqu'un quand même, parce que vous avez deux places pour aller voir Philippe Catherine au TAP de Poitiers ce week-end. Voilà.
Super cool.
Vous étiez peu réveillé, mais vous avez fini par trouver. Ça, je trouve ça très bien, Arnaud.
Ah oui, c'est cool. J'ai fait l'effort d'arriver en retard au taf, donc c'est cool. Ça va aller le coup.
Ils vont vous engueuler ou vous êtes votre patron?
Non, ils sont cool. Ils sont super cool.
Bon, et puis en plus, si vous ramenez une place pour aller voir Beyoncé. Non, Philippe Catherine.
Ah putain, j'ai gagné ça aussi.
Vous avez tout gagné en ce mardi, vous êtes passé sur Nova. Salut Arnaud.
Ah, super.
Ciao. Bisous. Il est 8h05, vous l'entendez derrière moi, ils font des bruits avec leur tasse de café. Ce sont nos deux invités, Étienne Chailloux et Mathias Théry. Bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être là si tôt tous les deux. Alors, vous avez réalisé un documentaire tout à l'heure, chercher des compliments parce que vraiment, ça nous a tous enthousiasmés ici à Nova. Ça sort demain au cinéma. C'est quand même pas souvent qu'il y a un documentaire qui sort en salle. Il faut le signaler. Ça s'appelle La Cravate, du nom de cet accessoire que Bastien, votre jeune héros, va apprendre à porter à mesure qu'il monte les échelons politiques d'un parti qui se responsabilise et respectabilise, c'est le Front National, parce qu'on est avant 2017, donc ça s'appelait le...
On est pendant la période électorale de 2017.
Pendant la campagne.
La campagne présidentielle et législative.
Et Bastien, ce jeune militant que vous avez suivi, il fréquente depuis plusieurs années à Amiens en Picardie, c'est le local du Front National.
La permanence.
Et il est fasciné, mais vraiment fasciné par Marine Le Pen. Il y a un plan assez incroyable. C'est la première chose Marine Le Pen qu'il voit le matin, parce que il y a son affiche, sa tête punaisée au-dessus de son lit. Son lit, une place, on le précise. Alors, je vous propose d'écouter la bande-annonce qui est hyper bien faite de La Cravate et de répondre à la question finale que pose Bastien. Écoutez bien.
Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
J'ai l'impression de lire un livre, mais... Tu sais déjà tout ce qui se passe dedans.
Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle.
On pense pas pareil, tu le sais bien.
Mais oui, je le sais bien.
On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti.
Bastien, Florian, bonjour.
On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition.
Ça fait un peu flipper tout ça quand même.
Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier.
Non, mais après, il filme, je veux dire des trucs.
Je veux pas de cette séquence dans le montage final, tout ça est...
Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma, qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité?
Mais je passe pour un salaud, du coup. J'étais un salaud.
C'est la question de Bastien. Bastien, est-il un salaud? Alors, Étienne Chailloux, Mathias Théry, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, on préfère répondre à ça après le film.
Après le film, et même, en plus, je dirais que l'objectif du film n'est pas de dire salaud, pas salaud. L'objectif du film est d'essayer de mieux comprendre la trajectoire d'un jeune qui, entre ses 15 et ses 20 ans, se met à devenir un fervent militant, voire un petit cadre de ce type de parti. Et donc, la démarche du film est bien précise. On a été un peu chercher du côté de la littérature, c'est-à-dire qu'on a suivi Bastien pendant 8 mois à peu près, et ensuite on a écrit un texte assez littéraire qui raconte sa vie, et ce texte on lui a tendu, on lui a proposé devant la caméra. La bande-annonce qu'on vient d'entendre, c'est un peu la quatrième de couve en quelque sorte, quoi. Et tout le film, c'est lui qui découvre l'histoire qui raconte sa vie.
Et il lit sa propre histoire.
Il lit sa propre histoire, et il a le pouvoir d'arrêter le récit, et de réagir et de discuter avec nous.
Et de répondre à ce que vous dites de lui. Ça, c'est, l'idée, c'était pour une... Parce que c'est rare quand même de voir des gens qui parlent du FN sans être militants, comme vous, parce que vous venez quand même, vous vous demandez pourquoi il y a une montée quand même du front. Mmh. Donc, au départ, il y a une envie politique de comprendre ce qui est votre opposé. Ouais. Mais vous lui donnez quand même la parole. On le voit rarement. On parle souvent du FN, ou sinon on parle avec le FN parce qu'on est du FN. Mais ce dialogue entre...
Oui, c'est pour ça que je disais, je préfère en parler sur cette question, Bastien est-il un salaud ou pas, après le film. Parce qu'une des propositions qu'on fait, c'est d'essayer d'enlever les étiquettes pour aborder le Front National. Donc on est face à un militant du FN, on va essayer pendant un temps, pendant le temps d'un film, de repartir à zéro. De se demander qui c'est Bastien, quel a été son parcours, par quoi il est passé, avant de commencer à lui coller l'étiquette qu'on connaît tous. Hein,
oui, et puis même, on va aussi. Je pense que les réactions qu'il a, lui, sont plus intéressantes. Là, ce qu'on a entendu tout à l'heure quand il pose cette question, c'est une de ses réactions face au texte qu'on lui tend. Et ses réactions font sens. Voilà, le but n'est pas de trancher, le but est d'observer comment est-ce qu'il réagit, quoi.
Vas-y, viens, on échange nos rêves. Juste une nuit. Nova, pour que tu rêves encore.
Il est 8h14, vous êtes toujours sur Nova et on parle politique ce matin avec Étienne Chailloux et Mathias Théry, réalisateurs de La Cravate, documentaire qui suit donc Bastien, jeune militant frontiste et picard, fan de Marine Le Pen. Alors la campagne que vous filmez, c'est celle de 2017. Et à l'époque, un peu avant, mais là on sent très fortement qu'il y a un enjeu pour le FN. À l'époque c'est la dédiabolisation, c'est notamment un peu le rôle de Florian Philippot qui était numéro 2 du parti. Est-ce que votre héros, qui existe vraiment, Bastien, il y croit à ce nouveau FN?
En surface, oui. C'est-à-dire en surface, quand on l'aborde pour la première fois, il cherche à nous raconter un Front National très propre. Et donc il fait mine d'y croire. Et le but du film, ça a été de creuser et de montrer qu'à l'intérieur, c'est pas si simple. Et que Bastien aujourd'hui a changé, hein, et il vous dirait que non, il n'y croit plus du tout.
Mais en effet, dans le film, on raconte sa relation particulière à la dédiabolisation, parce que Bastien est à la recherche d'une respectabilité lui-même. Il a envie de devenir quelqu'un. C'est un jeune.
Bah, d'où aussi le nom du docu, La Cravate. Il a envie d'apprendre à mettre une cravate.
On commence le film, il est simple militant dans sa campagne, et on le voit qu'il
bosse
enfile,
au Laser Quest.
Voilà, il enfile la cravate, il monte. Dans le parti, il va pour devenir cadre, il rencontre Florian Philippot et on le suit à ce moment-là. Et donc, il espère que la dédiabolisation va lui apporter quelque chose. Les choses sont plus compliquées parce que la dédiabolisation, c'est qu'une apparence et c'est pas si simple. Et il lui arrive du coup d'autres aventures avec sa cravate.
Vous avez une relation très très proche avec Bastien, on le disait tout à l'heure. Vous filmez les entretiens que vous menez avec lui.
Non.
Si. Vous menez des entretiens avec lui pendant qu'il lit sa propre histoire.
Je précise. Pour écrire le texte dont parlait Mathias, on a fait des entretiens...
Juste audio,
mais c'est important. C'est-à-dire qu'on est allé en douceur avec lui. On ne peut pas commencer à lui braquer une caméra et à lui demander de raconter sa vie. Et on a filmé un entretien, qui est le moment où on lui remet le texte.
Ouais, qui a lieu un an plus tard, un an après le tournage de la présidentielle, le moment où il découvre le texte.
Et du coup, donc on est moins sur l'analyse du programme du Front National que vraiment
tout,
sur comprendre ce qui motive Bastien. On a l'impression qu'on apprend que c'est... Alors, il parle de la peur de la racaille quand il arrive au collège, mais plus profondément de l'échec scolaire. Parce que Bastien, c'est quand même l'histoire d'un gamin qui n'arrive pas à suivre... qui n'arrive pas du tout à suivre à l'école et qui, du coup, développe une vraie haine des profs. Et on a l'impression que c'est à la base de son sentiment d'injustice.
Alors, on ne va pas trop en parler parce que c'est dans le film, on essaie d'amener... cette histoire.
Non, on essaie toujours comprendre pourquoi des gens...
Alors, on pense que chaque électeur du Front National, s'il est attiré par un parti comme celui-là, a une colère enfouie, une peur enfouie, et qu'elle est intéressante de décrypter. Chez Bastien, c'est sûr que c'est du côté de l'école. Quand il rencontre Mathias pour la première fois, il lui parle beaucoup de son rapport au professeur.
Oui, c'est ça, et en creusant, en essayant d'aller chercher... les racines de son engagement, en allant au plus profond de son histoire, en effet, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec le système scolaire. Et c'est dingue, parce que c'est le point de départ de tout.
Bastien, vous parliez donc de sa recherche d'un peu avancer dans le Front National et de gagner un statut. On parlait aussi de Florian Philippot, incontournable de la campagne de Marine Le Pen en 2017. Florian Philippot, qui, beaucoup s'en souviennent, avait lancé une chaîne YouTube. C'était en janvier 2017, une première vidéo en fanfare qui avait vraiment bad buzzé, comme on disait à l'époque, et à laquelle Bastien avait participé. Rappelez-vous de cette vidéo.
Bonjour, on est ici au QG de Marine Le Pen, plus exactement dans la cafette. Alors je sais, ça fait un petit peu Hélène et les garçons, mais c'est le lieu où on se détend, on peut prendre un café, on peut fumer pour les fumeurs, on peut passer un peu à autre chose avant d'aller retourner travailler. Et je viens de lancer ma chaîne YouTube pour faire les carnets de campagne de Marine Le Pen, en quelque sorte pour vous montrer les coulisses de cette campagne, vous montrer ce que vous ne voyez pas.
Sauf que ce qu'on voyait quand même des trucs dans cette vidéo, c'est Florian Philippot qui buvait un mug complètement vide, enfin un peu youtubeur, mais c'était raté. J'ai compté, il y a eu 28 000 pouces en bas en toute cette vidéo, et 6 000 en l'air. Votre héros, Bastien, il était au cœur de ce bad buzz. Il était censé être... Il représente un petit peu la tentative de rajeunissement du Front National.
Oui, il a été désigné pour réaliser cette vidéo. C'était une tentative de son jeune chef, Eric, qui a 23 ans, qui est le parachuté local, qui prend Bastien et se dit « celui-ci va nous faire les vidéos de Florian ». Donc on le suit hein, dans le film, qui réalise cette première vidéo et comment est-ce que se transforme en bad buzz. C'est intéressant de voir comment est-ce que, à la fois où le parti essaye de donner de la place aux jeunes, et le fait aussi assez maladroitement, qui c'est à la fois les champions de la communication et parfois ils le font de manière complètement à l'arrache.
Mais ils le disent à Bastien, ça a bad buzzé, mais on s'en fout, ça a fait parler de nous.
Ça, c'est la leçon politique. Bastien, il adore, on découvre avec lui un peu les trucs de la politique. Mmh. Et en l'occurrence, une des leçons qui est il faut exister médiatiquement, même si tu existes pour des mauvaises raisons, au moins tu existes.
Même si les pouces sont en bas. Une dernière question, Étienne Chailloux, Mathias Théry, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais il y a quand même une phrase qui revient chez Bastien et qui est assez incompréhensible, c'est « peut-être que ce film va changer ma vie ». Pourquoi il a fait le film avec vous ? Vous avez compris ça ou pas ?
Alors nous, oui. On pense que parce qu'il a envie de changer, ouais. Moi, je pense ça.
Et qu'est-ce qu'il attend, votre documentaire ?
Moi, je pense qu'il ne sait pas trop. Mais il avait un poids à l'intérieur et il cherche à changer, tout simplement. Oui. Ce qu'il attend, je pense qu'il ne le sait pas lui-même. C'est quelqu'un qui est un peu joueur, qui aime bien prendre des risques dans la vie.
Parce que politiquement, il ne va pas lui apporter un statut au FN, ce film. C'est pas...
Il a quitté les FN depuis. Hein.
D'accord.
Il a quitté les FN, mais attention, pas suite au film. Il a quitté le FN quand il y a eu la scission.
Il a suivi Philippot.
Il a suivi Philippot. Il a quitté le FN par fidélité, en réalité. Quoi. Bastien, il reste quand même ambigu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, il a fait un énorme travail sur lui. Aujourd'hui, il renie totalement son engagement au Front National. Et il est aussi encore au Patriote, qui, pour nous, est un parti d'extrême droite, satellite du Front National. Donc.
Mais du coup, dans ce film, nous, au début, on pensait faire un film juste sur le portrait d'un ambitieux qui monte dans le Front National. Ouais. Et on s'est rendu compte, en faisant le film, et Bastien lui-même, qu'il s'est passé autre chose. C'est devenu un film sur la tentative d'un jeune de faire changer sa vie. Et il a pris en main le film pour faire une tentative que je ne décrirai pas ici, mais il y a un basculement comme ça, où ensuite on se sépare du politique pour aller vers l'intime.
Vers l'intime.
C'est pas pris en main, pardon, c'est en pareil du film, mais il est pas aux manettes, pardon.
Bon, allez voir ce film, ouais. Allez voilà. Voir ce film, les discussions ne s'arrêtent jamais quand vous l'aurez vu, on vous l'assure, et il nous a beaucoup, beaucoup touchés. Merci beaucoup tous les deux d'être venus en parler, donc ça sort demain en salle, au cinéma, ça s'appelle La Cravate, et il y a une séance dès 10h.
Ce soir, avant-première au 7 Parnassien.
Eh ben voilà, on ira tous. Merci beaucoup. Nova. Il est 8h24, on va rester sobre puisqu'on doit prendre un transport en commun, c'est un cheval cette semaine. Marie Transport est avec Bartabas, l'inventeur du théâtre équestre, qui raconte sa vie dans un livre qui sort après-demain. On écoute l'épisode 2 de Marie Transport.
Vous allez où ?
Service d'accompagnement de personnalité au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 2.
Je sens que vous allez pas m'aider, Bartabas. Parce que vous voulez pas raconter ce que vous racontez dans votre livre, en fait.
C'est pas ça, c'est que je me méfie beaucoup des mots. C'est pas une vraie parole qui sort de la bouche. Je pense qu'elle est souvent édictée par un rapport social ou professionnel, comme en ce moment, je suis face à un micro, alors que je suis sur un cheval, je n'aurais jamais dû accepter cette histoire-là. Voilà. L'écriture, par contre, permet d'avoir une vraie parole, je pense, de ciseler les mots, de ciseler sa pensée, d'être précis, exactement comme quand je travaille avec mes chevaux. L'écriture permet ça, permet de rendre le mot, la parole, juste.
Ah, j'ai un petit peu mal au bras.
Bah oui, surtout que monter sur ce petit âne, là vous êtes beaucoup plus bas que moi. Donc,
Vous aviez un cheval qui s'appelait Quichotte, un cheval Quichotte d'ailleurs avec un X.
Oui, c'était un cheval lusitanien, Ortigon Costa, que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'il a été capable de galoper en arrière, qui est un air très très rare. Et j'ai eu la chance de croiser ce cheval, quoi. Comme j'ai eu la chance de rencontrer la plupart de mes chevaux, quoi.
Mais c'est quand même un petit peu des histoires de coup de foot, parce qu'on a l'impression, en tout cas pour vos premiers chevaux, on a l'impression que vous tombez sur des chevaux auxquels les autres ne croient pas forcément, ou en tout cas n'y tiennent pas particulièrement, et vous voyez quelque chose qu'ils ne voient pas eux.
Ah ben c'est pas ça, c'est que c'est ma disposition d'esprit que j'ai toujours eu depuis le début, qui était un peu imposée par mes conditions de vie, quoi, hein, puisque voilà, moi je suis un peu un autodidacte, on a commencé vraiment dans la rue avec un cheval. C'est que le cheval parfait n'existe pas, donc ça sert à rien de le chercher. Et j'essaie de ne jamais avoir d'idées préconçues. Je ne cherche pas ou je ne rencontre pas avec un cheval avec une idée préconçue de quelque chose à réaliser. Je le rencontre, il est là, il y a un coup de foudre ou pas d'ailleurs au départ, et puis... voilà, on cherche ensemble.
Il y a le petit, il y a le cheval, il s'appelle, c'est non, Misère, c'est pas son nom.
Si, si, il s'appelle Misère.
C'est un peu triste, Misère.
Oui, bah c'est comme ça, il y en avait quatre gris dans Ex-Anima, Guerre, Misère, et ainsi de suite.
Les quatre cavaliers de l'Apocalypse.
Exactement. On peut rien vous cacher.
Il est beau, Misère, il vient de me dire bonjour. Parfois, vous apprenez aussi de la relation des chevaux entre eux. Vous racontez cette histoire où un cheval donne à Chaparro
de la paille à travers les barreaux à son voisin.
Donner de la paille à travers les barreaux à son voisin.
Et il le faisait la nuit en douce. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup aller observer les chevaux souvent la nuit dans les écuries. Il faut attendre, il faut être très patient. C'est comme un espèce de confessionnal. Chaque box est un confessionnal.
Et les chevaux rêvent, vous le dites. Et parfois, ils parlent en dormant, comme Zingaro.
Ils émettent des sons la nuit, parfois, oui. Quand ils rêvent. Les chevaux rêvent, vous savez. Est-ce qu'ils rêvent qu'ils veulent devenir humains? Après presque une vie entière passée à côté des chevaux, je me dis, je recherche un peu le croisement d'échanges. C'est-à-dire que le cheval me ramène à mon animalité. Et quelque part, avec cet échange, le travail, ce que nous construisons ensemble, peut-être... le cheval commence à faire un pas vers l'humanité. Le pas que nous, peut-être, nous avons franchi, de côtoyer les chevaux, de les éduquer comme ça, c'est quelque part...
Refaire le chemin.
Refaire le chemin, exactement.
Marie Transport.
La suite au prochain épisode, demain. Comme une série, quoi.
La chronique...
Oh la planche, c'est oh la planche.
La chronique sport.
Barnabé, aujourd'hui vous nous parlez d'un sport pas du tout connu, c'est de l'aviron, mais sans eau et sans bateau.
C'est ça, c'est de l'aviron indoor, autrement dit en français de l'aviron d'intérieur, en salle. Et c'est tout à fait sérieux, Marie en témoigne, les 3e championnats du monde qui auront lieu ce week-end à Paris, au stade Pierre de Coubertin. Mais comment donc, alors, fait-on de l'aviron sans eau ni bateau?
Mais oui, c'est vraiment la question essentielle, parce que je
tout le monde se demande. Eh bien, tout simplement, grâce à cette machine bien connue des adeptes de la salle de muscu et de tous les fans d'ergomètre, le rameur. Vous savez, cet appareil hein, où on tire là et qui reproduit fidèlement le mouvement de l'aviron. À la base, quand les premiers rameurs ont vu le jour dans les années 70, ils étaient d'abord pensés comme un outil d'entraînement pour les athlètes et comme un moyen aussi de continuer la pratique quand les conditions extérieures, notamment en hiver ou en cas de grosses intempéries, ne permettaient plus de sortir sur l'eau.
Sauf que, avec le temps, ce rameur a donc fini par se transformer en un sport à part entière avec ses propres compétitions.
Exactement, l'aviron indoor a fini par s'autonomiser d'une certaine manière pour devenir une vraie discipline sportive reconnue officiellement par le ministère des Sports en 2012. C'est d'une part l'effet de la popularité de l'outil auprès des sportifs eux-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a pas un champion d'aviron qui ne s'entraîne pas quasi quotidiennement sur un rameur. Et d'autre part, on assiste aussi à une certaine démocratisation de l'objet. Aujourd'hui, toutes les salles de sport sont équipées d'un rameur qui est considéré comme l'un des meilleurs appareils de fitness et recommandé pour ses effets sur le système cardiovasculaire. Il permet de solliciter presque tous les muscles du corps sans être traumatisant pour les articulations. D'ailleurs, pour la petite histoire, la compétition ce week-end est participative.
On peut y aller ?
C'est-à-dire ouverte à tous.
Très bien.
Tout le monde pouvait s'inscrire pour concourir dans sa catégorie d'âge et de poids. Et c'est assez rare pour être souligné. C'est pas tous les jours, Marie, qu'on peut s'amuser à essayer de devenir champion du monde.
Et alors concrètement, ça va ressembler à quoi cette compétition ? On va regarder des gens faire du rameur.
Alors ce sera tout de même un peu plus interactif, je vous rassure. Dans le gymnase, des dizaines d'ergomètres seront alignés les uns à côté des autres et connectés entre eux grâce à un logiciel qui permet de retransmettre la progression de chacun sur grand écran.
C'est quoi des ergomètres, Bernadette ?
Les ergomètres, c'est cet appareil, le rameur, en fait.
D'accord.
C'est un nom d'ergomètre. C'est
okay.
Le nom d'un ergomètre, comme le vélo elliptique, par exemple. Et donc, pour tous les spectateurs, ce sera comme une course virtuelle. On pourra voir la progression de chacun sur grand écran. Par contre, pour les athlètes, qui n'auront pas forcément accès à ce grand écran, c'est un exercice assez différent, beaucoup plus solitaire. À la différence de l'aviron traditionnel, hein, où chacun, dans son couloir d'eau, peut évaluer en temps réel sa performance par rapport à celle des autres, à côté, là, les athlètes sont beaucoup plus concentrés sur leur propre effort. Ce qu'ils regardent, c'est ce chiffre qu'indique le tableau numérique sur l'ergomètre, qui estime notamment la puissance développée. Donc psychologiquement, ça change la donne, comme l'explique Hélène Lefebvre, championne d'Europe d'aviron en 2018 et multiple championne de France qui sera en lice ce week-end. L'aviron indoor, c'est d'abord un combat entre la machine et soi-même.
Du coup, c'est vraiment très différent de l'aviron classique.
Seule la distance de course reste la même, hein, que ce soit sur l'eau ou sur la machine, on parcourt 2000 mètres, la distance standard olympique de l'aviron. Pour le reste, elle n'a en effet pas grand-chose à voir, ne serait-ce que pour les sensations, évidemment. À la base, l'aviron est un sport de glisse, et toute la dimension technique réside dans la maîtrise de cette sensation, dans le toucher, le feeling avec le bateau, en s'adaptant aux contingences extérieures, les conditions météorologiques, le sens du vent, etc. Avec un rameur, l'effet est donc de nature assez différente, et en même temps, c'est peut-être aussi ce qui explique son succès récent. Pas besoin d'avoir le pied marin, pour le coup, il n'y a vraiment aucun risque d'éprouver le mal de mer.
Ah bah oui, vous m'avez donné envie de me réabonner à Néophyte, ma salle que je n'ai jamais fréquentée, mais pourtant j'ai la carte.
C'est vrai, vous avez la carte?
Oui.
Moi, ça m'a donné envie de caresser un bateau. Pas vous?
Non. Vous êtes trop différente du reste du monde, Queenie.
Bah.
Nova.
Peut-être que notre auditeur sait. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Vous savez ce que ça veut dire, fourche codine?
Je me doute que c'est un truc assez compliqué, quoi.
Ouais, voilà, bah on est deux. Étienne, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Saint-Cloud.
Saint-Cloud, très bien.
En 92, ouais.
Oui, on voit bien, il y a eu des trucs politiques à Saint-Cloud, non? Comme le Front National.
Ouais, voilà, exactement.
Ben, on en parlait tout
pas,
à l'heure.
C'est pas forcément connu pour les meilleures raisons.
Alors, vous allez aller voir La Cravate, ce documentaire incroyable qui sort demain en salle?
Oui, sûrement, si vous me le conseillez, en tout cas, j'essaierai.
On vous le surconseille et c'est très sincère. On vous souhaite aussi une bonne chance pour ce quiz ce matin. Tout commence par cab. Donc cabale, cabaret, cabinet d'orthophoniste. Vous l'avez?
Ok, c'est ok, facile, ok.
Ça. Okay. Ouais, bon, il est à combien le record, la Queenie? On sait plus. Je crois qu'il est à 7.
Ouais, c'est ça.
Il y a Sarah qui nous mime un 7 avec tout son corps. On dirait une cheerleader. Pour l'instant, 7, il faut juste battre ça. Ça va le faire.
Bien sûr, j'ai tout donné en tout cas.
Allez, 45 secondes, Étienne. Alors, c'est les WC.
Le cabinet.
C'est l'enfant de la chèvre.
Le chevreau. Non, le. Je sais pas.
C'est une voiture sans toit.
Le cabriolet.
Oui, c'est une maison pour enfants dans les bois.
Une cabane.
J'y ai passé des heures avant l'invention des téléphones portables.
Je sais pas.
C'est Petite Marie, je me bats pour toi, pour
Cabriolet.
Merci. Ok, les Kabyles, ils viennent d'où?
De Kabylie.
Complétez cette phrase. Je pète un...
câble.
C'est un sac à course.
Un cabas.
C'est un taxi en anglais.
Un cab.
Le poisson pané, c'est quel poisson?
Le cabillaud.
C'est un manteau.
Un cab... Je sais pas.
Pas de manteau ce matin pour Étienne.
Attendez. Un cabre.
Vous avez failli mettre un cabriolet sur le dos quand même là.
Ouais, non, c'est quoi le manteau?
C'est un caban.
Un caban.
Vous savez, les manteaux des filles qui vont dans les collèges privés.
Alors, vous vous souvenez pas, peut-être avant le téléphone portable, c'était les cabines téléphoniques.
La cabine téléphonique, Étienne.
Ah ouais, mais je crois que j'en ai même
jamais utilisé. Vous avez quel âge?
J'ai 29 ans. Non, mais je déconne, mais il y en avait. Mais...
Oui, il y en avait.
Avec la carte, là, et le code France Télécom.
Et surtout, oui, pour se faire rappeler. Bon, bref.
Mais je faisais les collections des cartes en plus. J'ai honte.
Moi, j'ai celle de Mickey que je vous échange contre celle de R2D2 que je trouve plus.
Bon, les gars, on arrête cette histoire.
Est-ce que j'ai battu les 7?
Vous avez battu les 7, vous avez fait 9 points.
On s'en fout de la correction.
Oh la vache,
pas de correction. Je veux juste vous dire que l'enfant de la chèvre, c'est le cabri, mais si
voilà,
ça vous intéresse.
C'est dit, puis maintenant, on fête la victoire.
Allez, c'est parti.
Allez.
Étienne, vous êtes notre recordman du mois de février. Vous avez fait 9 points, c'est bien. Et ben, le matelas Teddy Bear, il n'y a plus qu'un mois. Et si personne ne bat votre corps, il est pour vous dans votre lit.
Génial. Et ben, j'espère que sur les 30 prochains jours, ça va bien se passer.
Bah, faites appeler toute votre famille. Hein. Comme ça,
ouais.
Qui reste en mif.
Elle a le son Queenie parce que vous avez pas du tout écouté sa collection.
Oui.
Étienne,
ça se fait pas.
Oh, je vous souhaite un très beau mardi chez les petits clous.
Merci.
Salut.
Bisous.
Merci, au revoir.
Nova.